Toulon, sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Parc des Princes à Paris, le 6 juin 1992, jour de finale du championnat de France de rugby. Le RCT affronte le Biarritz Olympique. Le club toulonnais fait mentir les pronostics, se hisse en finale et l'emporte face au légendaire Serge Blanco. Sur le terrain, il y a la silhouette agile d'un joueur déjà international, un nouveau parmi les Toulonnais. Pourtant, en ce début des années 90, les transfuges sont rares, c'est une exception. Aubin Weber n'a pas fait ses classes à Toulon. Il a quitté son sud-ouest natal parce qu'il a cru dans le RCT. Après un début de saison où il ne peut pas jouer pour cause de licence rouge, le numéro 9 devient éclatant dès qu'il porte le maillot rouge et noir. On se souvient encore de son drop décisif contre Tarbes, sa ville natale. Il était l'étranger, la rade l'a adoré.
Oh, une très grosse domination toulonnaise qui va se concrétiser par un essai.
Oh, c'est bien,
c'est joli.
30 ans après, nous les avons retrouvés, eux qui ont écrit l'histoire du RCT. En 10 épisodes, Varmatin vous fait revivre l'épopée du sacre toulonnais, Aubin Weber, itinéraire d'une recrue adoptée par Mayol.
Bon ben, merci de nous accueillir chez toi, ici à Toulon. D'ailleurs, toi, le natif de Tarbes, tu es arrivé à Toulon il y a 30 ans.
Ouais.
Plus toulonnais ou plus tarbais alors maintenant?
Bien, plus toulonnais. Plus toulonnais, c'est logique. J'ai mes deux enfants qui sont nés ici. Donc voilà, notre vie ici à Toulon, enfin, à La Valette, à côté de Toulon. Et ouais, c'est que du bonheur, que du plaisir d'être ici.
Tu arrives donc à Toulon à l'intersaison 1991-1992. Voilà pourquoi on est aussi ici aujourd'hui. Comment se passe à l'époque une mutation de joueurs comme ça? Pour toi, ça a été compliqué, visiblement.
Ouais, c'est plutôt compliqué pour les joueurs internationaux. C'est compliqué puisque, automatiquement, moi, quand on mutait, on n'avait pas l'autorisation, ou du moins, on était en licence rouge. Moi, j'ai été en licence rouge pendant les matchs allés. Donc, j'avais le droit de jouer en Challenge League du Manoir, mais pas sur le championnat. Donc, les matchs allés, je jouais en National B.
Quand tu vis ça, justement, toi, voilà, tu signes dans un club, Toulon en l'occurrence. Je crois qu'il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés aussi par ton profil.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et voilà, est-ce que le fait que tu signes à Toulon, la licence rouge a été plus ou moins longue?
Écoutez, une petite anecdote. En 89, quand Jérôme Gallion arrête sa carrière, Daniel Herrero me contacte. Donc j'étais à Lourdes déjà. Et là, j'ai Daniel Herrero qui m'appelle, donc je le rencontre. On est invité avec mon épouse au match à la demi-finale. Contre Narbonne au stade toulousain là-bas, c'était au stadium. Et donc entre-temps, je suis convoqué par le président de la Fédération française de rugby, Albert Ferras, qui me fait venir dans ses bureaux et qui tout simplement qui me dit écoute, tu comprends, tu es un bigourdan, tu vas pas aller jouer là-bas chez ces voyous, donc tu vas rester là parce que sinon tu seras en licence rouge pendant un an.
Pas de cadeau, quoi.
Pas de cadeau. J'avais 20 balais, tu vois. Donc, le président de la fédération, ce que représentait Albert Ferras à l'époque, c'était copieux. Donc, bon, finalement, je ne signe pas à Toulon en 89. Je reste à Lourdes. Et c'est quand André Réro prend la présidence du rugby club toulonnais en 91, et Jean-Claude Balator en tant qu'entraîneur, me font venir. Et là, moi, c'est moi qui appelle le président Ferras, en lui disant, voilà, écoutez, vous m'avez demandé il y a 2 ans de pas signer là-bas. Bon, ben là, cette fois-ci, j'y vais. Donc, même si je suis en licence rouge, c'est pas grave. Donc, j'ai été en licence rouge pendant tous les matchs allés, 3-4 mois, je crois que c'est à peu près. Donc, voilà. Mais je le regrette pas.
Parce qu'on peut pas dire non à André Herrero, si c'est le problème.
Ouais, c'est ça.
Bah, du coup, comment toi, en tant que joueur, du coup, tu prépares ces 6 premiers mois? Comment tu les traverses? Comment tu vois? L'entraînement, c'est bien, mais bon, tu joues peut-être avec l'équipe B, mais voilà, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Alors, je joue en du manoir, donc avec l'équipe première, hein, parce qu'il y avait 2 compétitions à l'époque, c'était le Challenge et du manoir et le championnat. Donc voilà, je pouvais jouer, je m'entraînais tous les soirs avec l'équipe première, puisqu'on s'entraînait en commun, hein, l'équipe B et l'équipe première, c'était le même effectif. Et donc voilà, et c'est vrai, les week-ends de championnat, moi j'allais jouer avec la B. Et c'est vrai que c'est pas le même rythme, mais je crois que tout simplement aussi à l'époque le rythme du, du, la première division n'était pas non plus un rythme très élevé. Ça peut rien avoir avec ce qui se passe maintenant.
Et pour ton statut international, est-ce que ça t'a pénalisé cette licence rouge?
Mais pas spécialement, puisque après j'étais quand même sélectionné sur les premiers matchs, puisque j'avais fait les préparations de la tournée de novembre et même joué les Blacks à Nantes. Donc voilà, non, j'avais pas été pénalisé spécialement par cette licence rouge.
Donc t'arrives à Toulon, qu'est-ce que ça représentait ce club? Alors t'as eu des contacts avec Daniel, il y avait eu le titre de 87 avant, voilà, qu'est-ce qui représentait ce club pour toi en tant que jeune joueur?
Ah ben, pour jeune joueur issu du Sud-Ouest, Toulon était un club mythique. On les badait tout simplement parce que c'était un club, une équipe très insulaire, hein, en bas là-bas, on dit toujours en bas de la France, donc dans le Sud, et c'est vrai que c'était quelque chose pour nous de mythique. On badait cette intensité, cette agressivité qu'il y avait, parce qu'à l'époque le jeu était agressif, et on, tout simplement, je pense que moi en plus j'avais comme modèle quand même Jérôme Gallion, qui était un des meilleurs demi-mêlés au monde. Donc voilà, je crois que tout faisait que je devais signer ici à Toulon sur la rade.
Justement, tu arrives, même s'il avait arrêté un peu avant, tu arrives en successeur entre guillemets de Jérôme Gallion. Ça met une pression un peu supplémentaire. Comment tu le dis ça?
Ouais, ça met une pression supplémentaire, mais j'avais 21 ans, donc j'avais pas du tout cette pression-là. Simplement, c'était être le meilleur, essayer d'être le plus pertinent possible. Et bon, alors je vais dire, j'ai eu de la chance aussi que mon physique ressemblait, mon jeu ressemblait à des attitudes un peu de Jérôme Gallion. Donc avec les matchs qu'il y a eu et tout ce qui s'est passé, le public s'est identifié et m'a identifié de suite à Jérôme. Donc c'était un grand honneur pour moi, un grand privilège. Et partant de là, après, en plus, avec le titre au bout, eh bien, je crois que j'ai été carrément adopté derrière.
Est-ce que tu as été en contact avec Jérôme en tant que grand frère, un petit peu?
Bien sûr. Alors, je vous parlais tout à l'heure, en 89, Jérôme Gallion, je me rappelle, moi, quand j'étais tout minot, j'étais cadet, j'avais joué avec la sélection Arminac-Bigorre, du Sud-Ouest, à Biarritz. Et Toulon jouait un match de Dumas Noir en début de saison, mois d'août, et nous, on avait joué un lever de rideau. Et Jérôme Gallion m'avait parlé à la fin du match pour me féliciter du match que j'avais fait. Donc voilà, j'avais eu déjà. Et puis après, bien sûr qu'on était en contact et j'avais eu des rencontres avec Jérôme pour échanger un petit peu sur la ville de Toulon, le club de Toulon. Donc voilà, c'était vraiment des échanges cordiaux et surtout aussi sur l'aspect du rugby.
Tu arrives dans un vestiaire aussi où très toulonnais, où on vient de La Valette, on vient de Solliès. On vient peut-être d'Afrique du Sud pour Eric Melville, mais voilà, c'est quand même très, très sud-est. Comment t'es perçu, toi, un petit peu le mec qui vient du sud-ouest?
Il faut faire ses preuves. Je crois qu'avant tout, il faut venir avec beaucoup d'humilité. D'abord, eh bien, ne pas arriver en disant « je suis le beau, je suis le plus fort, le meilleur ». Donc, et puis surtout quand on vient après Jérôme Gallion. Je crois qu'avant tout, il faut savoir se faire accepter du vestiaire. Voilà, échanger avec les autres joueurs. Je pense qu'aussi, ce qui est le plus important, c'est ce que vous donnez sur le terrain. Donc voilà, après, une fois que vous êtes adopté par notamment les avants, les gros, comme on dit, mais je crois que c'est plus facile après. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de partir en tournée en 91 avec Eric Melville, Eric Champ, en tournée avec l'équipe de France quand je suis arrivé. Donc de suite, j'ai été adopté par eux. Et de suite, eux m'ont aidé à rentrer dans le process. Puis bon, je me suis senti rapidement à l'aise parce que je pense que c'est un club qui était fait pour moi.
Avec ce poste de numéro 9, faire autorité justement sur des Eric Champs, sur des Thierry Louvet, sur des Eric Melville, sur des Léon Lopi.
Je vous arrête de suite. C'est impossible, j'avais aucune autorité sur eux, simplement sur le jeu. C'est moi qui menais le jeu et ils avaient un énorme respect pour les numéros 9. Donc ils écoutaient et ils savaient que le 9 avait, l'initiative du jeu et la tenue du jeu, donc sur l'aspect stratégique. Donc voilà, après, eux, c'était des combattants, c'était des guerriers, ils donnaient tout comme ça, et après, c'était à moi de manœuvrer. Donc non, je crois que j'ai énormément de respect, ces deux amis, et c'est des amis hein, aujourd'hui, donc beaucoup de respect pour eux, et eux, ils en avaient autant pour moi. Donc je crois que c'était avant tout une affaire, justement, de don, de soi, d'être à l'écoute d'eux et eux à l'écoute de moi. Donc voilà, c'était un échange permanent, mais c'était que du plaisir de jouer derrière eux.
Et à l'inverse, toi, tu vas te retrouver au fil de la saison avec un minot à côté de toi qui est Yann Delay. Voilà, comment ça se passe votre association?
Alors, au départ, c'est vrai que Yann était avec les juniors, hein, parce qu'il était junior. Il venait s'entraîner avec nous. Donc voilà, il est intégré au fur et à mesure. Lui, Patrice Tesser, Gérard Dorsoni, de Rougemont, voilà, les 4-5 jeunes juniors qui étaient là. Bon, moi, je n'étais pas guère vieux, j'avais 23 ans, donc je suis allé sur mes 24 ans. Et donc, tout simplement, non, je crois qu'avec Yann, on a bien travaillé en osmose. Yann était aussi un joueur de talent. Il a démontré par la suite après, mais je crois qu'il avait toute sa fougue de sa jeunesse. Par contre, ouais, voilà, on était très, très complémentaires. Lui, il était gaucher, moi, j'étais droitier. Quand on voit aujourd'hui, si on peut reporter un peu le jeu au pied du numéro 9, quand on voit tous les joueurs neufs jouer beaucoup du jeu par-dessus. Moi, c'était une stratégie qu'on avait mis en place avec l'équipe, où j'étais de formation numéro 10. Et le jeu au pied du 9 et le jeu au pied de Yann aussi étaient importants. Et notamment, on en reviendra certainement un peu plus tard, les fameux drops, quoi, tout simplement. Et on travaillait tout ça, et on travaillait en osmose, on travaillait notre circulation offensive. Et avec Yann, voilà. Il y avait aussi Francis Laglaize qui jouait aussi soit arrière ou ouvreur, et aussi Jean-Louis Gruerin, le fils de Monsieur Gruerin. Donc voilà, tout simplement, on travaillait ensemble sur chaque entraînement, le positionnement, la qualité de passe, voilà, parce que la charnière était un poste important, et on travaillait notre relation sur le jeu comme ça.
Cette saison, elle est tout sauf simple, cette saison 91-92. Vous passez par des moments très compliqués.
Ouais.
Toi, tu débarques ici, ça reste Toulon, il y a de la pression populaire déjà à l'époque. Voilà, toi, tu débarques un peu ici, comment tu vis un peu ce Bailleul qui gronde dans la rue, on t'apostrophe, voilà, comment tu vis ça?
Ah, mais pour moi, je l'ai considéré de suite comme l'OM du rugby, quoi. C'est-à-dire une pression, ouais, des supporters, vous vous baladez dans la rue. Bon, j'habitais au Morillon à l'époque, et c'est vrai que je me baladais avec Enzo, mon fils et mon épouse. Voilà, et les gens de suite, ils avaient besoin de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, qu'est-ce qu'il y avait. Donc on était dans l'échange, je trouvais que c'était plutôt pertinent, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et simplement, il faut assumer aussi quand on fait de bons matchs et quand on fait des mauvais matchs. Et l'échange était toujours respectueux quand même. Ils n'étaient pas contents, mais c'était quand même respectueux. Ils aimaient bien qu'on échange avec eux. Donc voilà, je crois que ça a toujours fait partie de ce qui peut se passer à Mayol et autour de Mayol, en dehors des matchs. Voilà, c'est la convivialité qu'il pouvait y avoir et l'échange qu'il pouvait y avoir avec les supporters. Parce que, faut savoir quand même qu'il faut quand même leur rendre hommage. C'est des gens qui quand même faisaient des sacrifices pour payer leur abonnement, et encore maintenant. Donc on se devait quand même d'être bon sur le terrain, de tout donner. On pouvait perdre des matchs, mais au moins tout donner. Donc voilà, c'est cette notion un petit peu de partage et d'échange avec les supporters qui m'a toujours plu. Et oui, de la pression, il y en a encore, et il y en avait.
Éric Champ, vous me disiez qu'à un moment donné, vous étiez un peu sorti de Toulon, vous étiez allé un peu vous entraîner un peu plus loin. Il y avait ce besoin-là, finalement, de sortir finalement, ce contexte un peu
ouais,
tout
en fait,
fort, mais...
En fait, les deux étaient louables. On se servait de cette pression pour se dire, voilà, il nous faut... Il faut qu'on soit sous pression. Et après, on avait besoin un petit peu, et Eric l'avait très bien fait, aller s'entraîner, mais aussi passer des bons moments eh bien, autour d'une table, se retrouver ensemble, se dire les choses aussi, savoir se dire les choses, ce qui va, ce qui va pas. Et donc voilà, et je crois que là, Eric Champ avait été le vrai fédérateur, avait joué son vrai rôle de leader et de capitaine pour nous rassembler autour d'un même projet, d'un même objectif, c'était eh bien, se sortir de ce mauvais espace. Parce que c'est vrai que, je me rappelle, alors j'étais pas encore invité à jouer, ma licence était encore en rouge, mais je me rappelle de ce match aller contre Colomiers perdu à domicile. Donc voilà, un peu compliqué, ça avait été un peu le détonateur un peu de la rébellion.
Oui.
Donc voilà, et c'est vrai qu'autour d'Éric Champ, qu'on a fédéré, et autour de Jean-Claude Ballator et d'Alain Carbonel, qui était entraîneur des trois quarts. Donc voilà, je crois que c'était salvateur pour la suite.
Donc après, la saison prend un autre tournant avec ce match couperet. Et puis il y a ce quart de finale, il faut qu'on en parle. Toi, le Tarbé, ce quart de finale contre Tarbes, complètement fou. 30-30, tu passes le drop qui permet au RCT de se qualifier. Voilà, raconte-nous un petit peu ce match, le contexte, tout ce qui s'est passé.
Le contexte, il est très particulier parce que j'ai été formé à Tarbes, bien sûr. Mon petit frère jouait à Tarbes, Franck. Et donc, bon, il n'était pas dans le groupe, mais il avait fait quelques matchs. Et à la sortie, toute ma famille aussi. Alors, un peu le cœur qui balançait, hein, rouge et noir et rouge et blanc. Donc voilà, mais à la sortie, c'était un match avec beaucoup d'émotions. Les supporters toulonnais qui étaient, et je me rappelle un petit peu, même quelques-uns qui commençaient à quitter un peu les tribunes. Et on va aux prolongations. On va aux prolongations, et aux prolongations, je mets le drop qui nous fait passer à 30 à 27. C'est ça. Et eux, ils marquent une pénalité qui fait 30-30. Voilà, tout simplement. Et on se qualifie au bénéfice des essais. On avait marqué deux essais et eux. Donc, on avait marqué deux essais quand même fabuleux. Le jeu toulonnais qui était basé, on disait, sur le jeu d'avant. On fait deux relances de 80 mètres. On marque deux essais de 80 mètres. Donc, David Jaubert qui marque. Et l'autre, je sais plus qui c'est qui marquait. Je crois que c'est Pascal Giel. Je sais plus qui c'est qui marque l'autre essai. Mais voilà, et Patrice Cesser qui transforme aussi pour aller aux prolongations, qui fait 27-27.
En fin de match.
En fin de match, ouais. Du temps réglementaire et dans les prolongations, c'est là où je mets le drop, derrière une mêlée ou un regroupement. Donc voilà, je crois que c'était un moment de bonheur, et c'est vrai que face à l'équipe de Tarbes qui nous avait malmené quand même, on était en difficulté, à 5 minutes de la fin pratiquement, on était à presque plus de 10 points de retard. Et je vous dis, on marquait deux essais et ce drop après. Ce qui nous fait ce match nul et gagner ce match. Moment inoubliable, moment vraiment de fraternité. Je me rappelle, parce qu'en plus, on rentre avec le train de Béziers, parce que le match était à Narbonne, c'est la demi qui était à Béziers, et on rentre avec les supporters. Oui. Donc c'était fabuleux dans le train, c'était un moment de partage, d'échange avec eux, chose qu'on ne voit plus maintenant.
Tu dis donc 30 à 30, vous gagnez au nombre d'essais. Est-ce que quand l'arbitre siffle, vous avez en tête que vous avez gagné, ou il y a un moment de flottement ?
Il y a un petit moment de flottement, parce qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que bon, Jean-Claude Balatore, qui connaissait bien le règlement quand même, lui, de suite, a su que en marquant deux essais et E1, c'était les essais qui étaient d'abord validés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on... Et là, c'est un moment d'explosion de joie et de ferveur. C'était vraiment... inoubliable.
Tu dis, vous marquez deux essais de 80 mètres qui sortent un peu de l'ADN toulonnais, et c'est ce qui fait aussi votre force cette saison. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi, pas une prise de pouvoir, mais un changement de mentalité dans cette équipe avec les jeunes, avec toi. Avec ce que tu peux nous raconter, comment se perd la bascule du fait de sortir du jeu que de devant et de passer un peu à...
Tout simplement, sur ce premier essai de 80 mètres, on a une mêlée, dans nos 22 mètres, et à Yann, je lui dis, il faut la jouer, quoi. On n'a plus rien à perdre, il faut la jouer. Donc tout le monde est d'accord, et là c'est toujours pareil, quand tout le monde est d'accord, tout le monde joue dans la même intention. Et là, bien sûr, je me rappelle, un petit coup de pied par-dessus, récupéré par Pierre Trémouille, qui donne après à Pascal Giel, et après ça repart, ça revient, repond, Louvet, et voilà, et après il y a ici David Jaubert, transformé par Patrice en bout. Donc voilà, c'est des prises de décision collectives, Les avants, eux, on leur demandait de gagner le ballon, là, surtout d'avoir une bonne mêlée, une bonne conquête, pour pouvoir sortir un bon ballon et de jouer. Et après, le talent des jeunes joueurs et des autres, on fait tout, quoi. Et David Jaubert, à 5 mètres de la ligne, était inarrêtable.
Oui, cette volonté de jouer, elle est venue au fil de la saison aussi, de se dire, il faut lâcher les chevaux, les gars.
Oui, bien sûr. Mais après, notre point fort, quand même, c'était notre grosse conquête, touche mêlée, et l'occupation, jeu au pied de pression, ce qu'on appelle maintenant le jeu de dépossession. Moi, je me rappelle toujours de l'avoir utilisé tout le temps, mon jeu au pied par-dessus pour mettre de la pression, c'est pas pour se débarrasser du ballon, mais c'est pour mettre la pression à l'adversaire, et le jeu au pied de Yann Deleg d'occupation, voilà, je crois que c'était notre ADN, la conquête, le jeu de pression par du jeu au pied et grosse défense derrière, ça c'était notre base de jeu, et après on était capable par du talent, par ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, de nous amener voilà, quelque chose d'exceptionnel.
À la sortie de ce quart de finale, dans ces circonstances, est-ce que, alors, pas que vous vous sentez intouchable, mais est-ce que vous vous dites, ça commence à sentir bon, les planètes s'alignent, quoi, c'est...
Comment alors, une petite anecdote, on est avec Thierry Louvet et quelques joueurs au clubhouse, que tenait Thierry d'ailleurs, et il y a une dame qui vient nous voir et qui nous dit, je l'ai vu, vous allez être champion, je l'ai vu. Bon, on s'est dit, vous avez vu quoi? Donc voilà, c'était une dame qui apparemment avait des esprits... voilà, qui ont dit qu'on allait être champion, et franchement, je crois qu'on y a cru. On y a cru, après, à un moment donné, on s'est dit, c'est pour nous. Quand on voit le match contre Tarbes, on s'est dit, c'est pour nous, quoi. Et on va en demi-finale contre Castres, et voilà, quoi. Et on prend, Ivan Roux prend un carton rouge, on est à 14 contre 15, on s'accroche à tout, et un match assez bien maîtrisé, quand même. Et voilà quoi, et on va au bout, on va pour cette finale. Mais cette anecdote-là, elle me reste, et à chaque fois qu'on en parle avec Bruno Motteros ou les anciens, un peu Thierry Louvet, voilà, on se dit, putain, on se rappelle de ça.
Il y a un petit truc surnaturel qui flotte au-dessus.
Il en faut un peu, il faut se raccrocher des fois à des petites choses qui.
Quart de finale, donc toi tu passes en Europe, demi-finale, tu passes en Europe, finale, tu passes en Europe. Ouais. Raconte-nous ce serial botteur que tu étais.
Mais alors, tout ça, c'est vrai que si on prend l'historique un petit peu des titres de champion de France de Toulon, hein, en 87, vous avez un Christian Covy qui passait des drops. En 92, mais Yann Delegue et moi, on passe des drops. Et en 2013-14, la finale, voilà, et bien, des Johnny Wilkinson qui passent des drops. Donc voilà, c'est aussi dans l'ADN du club toulonnais, avoir des joueurs qui sont capables de marquer des points au pied. Soit par du tir au but, parce qu'on parle du tir au but, mais Patrice Tesser et Pascal Gênes, sur cette saison 92 quand même, Pascal Gênes nous pose des pénalités de plus de 40 mètres, 45 mètres en coin, 50 mètres. Patrice Tesser nous met la transformation de l'essai de David Jaubert en coin pour faire 27-27 lors du match contre Tarbes. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN du rugby club toulonnais et de ce qu'on a besoin d'avoir des buteurs et des joueurs qui savent marquer les points au bon moment. Et donc, ouais, je crois que c'est drop, c'est travailler. C'est travailler aussi à l'entraînement. Il faut savoir que Yann Delegue était gaucher. Donc, de droite à gauche, c'était plutôt lui qui les tapait. Et de gauche à droite, c'était plutôt moi. Et je me rappelle contre Béziers à Marseille, j'avais un du pied gauche parce que je pouvais taper des deux pieds. Ma formation de 10 me le permettait. Et c'est vrai que les drops fait partie du match. Aujourd'hui, on est un peu triste de voir que. On en tape très peu. Alors, les neufs, ils n'en tapent plus du tout.
C'est clair. Parce que toi, en tant que neuf, t'en passes beaucoup.
Ben moi, je m'étais beaucoup inspiré de Pierre Danos. Hein. Pierre Danos, qui est un ancien demi-mêlée de l'équipe de France, et d'Agen, qui avait joué à Agen, et qui était venu, je crois, jouer à Toulon, peut-être non. Et voilà, c'était des joueurs qui tapaient des drops. Il y avait voilà, à l'époque, des joueurs qui osaient. Mais je crois que voilà, c'est une arme aussi. C'est une arme avec ces défenses qui sont très hermétiques en ce moment. Ça peut être une arme et à travailler surtout, parce que nous on le travaillait avec Yann Delegue, on y passait avant les entraînements et après l'entraînement, je lui faisais des passes de droite à gauche et lui il mettait ses drops, et moi de gauche à droite je m'entraînais aussi derrière les rucks, derrière les mêlées, à taper ces drops-là.
Et toi quand tu passes, qui te sort le ballon finalement? Alors c'est Yann qui te sort les ballons?
Non, du tout, non, moi je tapais derrière carrément, de suite derrière le ruck. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous les voyez, ces grands qui peuvent vous contrer, mais il faut mettre... C'est ça, ce travail. Le problème, c'est que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas le réussir. Donc, je travaillais vraiment avec quelqu'un qui me montait dessus, je sortais de la pression, bam, et dessus, j'enchaînais le drop, derrière le mêlée et derrière les rucks.
Donc, c'est une mécanique à travailler, ouais, et vitesse d'exécution, surtout.
Ah, bien sûr, surtout. Surtout sortir de la pression pour se mettre en position de drop. Je faisais un pas ou deux sur le côté, très vite, côté recul et côté pour m'ouvrir la main. Et donc, voilà.
Et est-ce que les gens tombent un peu plus au Parc des Princes ou
Non, après c'est machinal. Ouais. Après c'est machinal, je crois que même avec l'équipe de France, j'en ai tapé, ça me faisait pas... Non, je pense que c'était la situation qui demandait voilà, de le taper. Donc je n'hésitais pas. Dans la mesure où je le travaillais, que je savais que techniquement j'étais capable de le faire, pourquoi ne pas le faire?
Et Yann, c'est toi, entre guillemets, qui l'a incité aussi à...
Ouais,
à...
Yann était plutôt quand même proté pour le jeu. Et lui, il était plutôt un joueur pour le pied, pour jouer au pied, c'était vraiment parce que c'était de la stratégie, qu'il fallait occuper le terrain, parce que c'était de la stratégie. S'il pouvait relancer tous les ballons, il l'aurait fait, mais il savait quand même que c'était important. Il savait que c'était important de marquer quand les avants avaient fait du bon boulot et qu'on était dans les 22, même dans les 30 mètres adverses. Il fallait concrétiser notre domination et notre venue dans le cadre. En fait, il fallait pas repartir du camp adverse sans en prendre au moins un minimum 3 points.
Bon, on arrive forcément à cette finale. Le Parc des Princes, Biarritz, Serge Blanco qui prend sa retraite. Tout le monde veut que Biarritz gagne. Ouais. Et bien, vous arrivez.
Non, mais là, tout le monde du rugby en France et même dans le monde entier vénérait Serge Blanco. Même nous, je veux dire, Serge Blanco représentait quelque chose dans le rugby français d'énorme. C'était le Pelé du rugby. Hein. Et c'est vrai que bon, on se retrouvait face à lui. On sentait cette pression de toute la France entière qui aurait souhaité pour la sortie de Serge Blanco un titre pour lui. Ben nous, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Et la bande de dominos qu'il y avait, et notamment Patrice Tesser, qui avant le match lui remet un bonsaï, voilà, Après le match, malheureusement, je lui ai dit à Serge, bon, écoute, on t'a offert un cadeau avant, le cadeau du bonus, c'était pour nous. Mais voilà, je crois que c'est vrai que on s'est donné les moyens d'aller chercher cette finale. Quand on voit un petit peu, quand le président de la République descend pour nous voir, on sent vraiment de la sérénité. Quand on voit les images un petit peu, on sent la sérénité dans les regards de tous les joueurs toulonnais. Je me rappelle d'avoir fait un clin d'œil à Ropon, à tout ça, enfin, on sentait de la sérénité, voilà. On ne voyait pas comment on pouvait perdre cette finale.
Et sur le déroulé du match, pareil ?
Pareil, pareil.
Vous avez construit comme vous le vouliez finalement ce match ?
Attention, parce qu'en face, il y a quand même Serge Manco.
Qui met une pénalité de
60 mètres, qui fait une relance sur un ballon et qui fait marquer son 3 carrés. Donc, attention, jusqu'au bout, il fallait être méfiant, parce que c'était les Basques bondissants. Donc, il fallait être attentif. Mais on avait une telle maîtrise au niveau de notre jeu, de la mêlée fermée, de notre conquête, jeu pied d'occupation, pression. Voilà, les bases de notre rugby. Et on savait par contre qu'on était capable de jouer un ballon. C'est ce qu'on a fait. On joue un ballon, sur un ballon récupéré, je crois, en mêlée, qui tourne. Et Thierry joue le rôle de demi-mêlée, parce que moi, j'étais parti de l'autre côté pour défendre. Et il donne à Yann, Yann qui veut faire une sautée pour rebond. Et Pierre Frémoux qui intercepte ce ballon, entre guillemets. Et ça permet de décaler Jean-Christophe Ropon. Donc voilà, et Pompon va marquer cet essai libérateur. C'est que du bonheur. Voilà.
Aujourd'hui, on t'envoie pour en parler, et quand tu nous racontes les matchs précédents et même cette finale, on a l'impression que c'était hier. C'est ancré en toi, que tu revois ces images dans ta tête, comment tu...
Ouais, bien sûr, je crois que c'est... Souvent, on me posait la question, quel est ton plus beau souvenir ? Oui, bien sûr, il y a eu des souvenirs internationaux qui étaient fabuleux, hein, les victoires en Afrique du Sud et tant d'autres. Mais celle-là, avec le club, première année, je signe à Toulon, une ferveur inouïe et le peuple toulonnais derrière nous, c'était magique. Je me rappelle de la fin du match à Marseille, au stade Vélodrome contre Béziers, où on voit cette image fabuleuse, le peuple toulonnais derrière, et nous on lève tous les bras comme ça, et cette image d'Éric Medville avec Léon Lopi qui lève les bras comme ça, encore en signe de V, de victoire. C'est extraordinaire, c'est des moments très forts. J'en ai même encore un peu les frissons en le racontant. Donc, ouais, c'est des moments dans une carrière de joueur de rugby qui sont inoubliables.
Ton fils est né cette année-là, si je ne dis pas de bêtises. Trop petit pour s'en souvenir. Tu lui as raconté dans son enfance, dans sa plus tard peut-être adulte?
Ouais, il a vu les photos parce que j'avais mon beau-papa qui était encore sur Terre à ce moment-là et qui me faisait vraiment. J'ai une quinzaine de books en photo et tout, où il y a tous ses souvenirs. Donc, eux, ils le voyaient en image avec les chemins du paradis, très belle vidéo réalisée par Toulon Communication à l'époque et Stéphane Galfray. Donc voilà, qui remet cette épopée. Et voilà, c'est vraiment bien sûr que les enfants, ils ont ça, ils ont les maillots qui peuvent le raconter. Puis après, voilà, les gens autour qui peuvent leur raconter aussi. Mais après, bon, maintenant, ça fait un peu loin, mais c'est vrai que. Avec ces 30 ans-là, on va peut-être, là maintenant, Enzo a 31 ans, donc voilà, il va sur ses 31 ans au mois d'août, donc voilà, c'est fabuleux.
Après cette finale, il y a aussi ce retour à Toulon, il paraît que nous on était trop jeunes et pas là encore pour en parler, mais pour vous il paraît que ça a été quelque chose, vous arrivez en bateau.
Mais comme a fait Mourad Boudjelal en 2014, hein, c'est ça le titre, ils sont arrivés en bateau avec un catamaran, nous c'est pareil, on est arrivé en catamaran, on a pris ce catamaran à hier, donc voilà, c'est des moments magiques et on est porté. Alors bon, moi c'est vrai que en 92 j'ai eu juste le temps d'arriver et je suis reparti en tournée avec l'équipe de France en Argentine, donc j'ai pu profiter de la soirée, mais le lendemain matin je repartais en tournée, donc j'ai profité que de cette soirée, mais qui était fabuleuse, vraiment fabuleuse, ouais. Ce peuple toulonnais qui était là, c'est magique.
Et c'est là où tu es devenu officiellement citoyen toulonnais ?
Ouais, on est montés tous au balcon. Et puis, je crois que notre nom a été scandé à chaque fois par le speaker. C'était Stéphane Galfray qui animait ça. Et le peuple toulonnais en bas, je crois que si on avait sauté, ils nous auraient récupéré pour pas qu'on se fasse mal. Tellement ils étaient là, présents, en masse. C'était toute la ville qui était là. Donc, c'était des moments extraordinaires. Extraordinaires. Après une saison... difficile et compliqué, un changement, je dirais, d'équipe, alors peut-être pas complètement au niveau des joueurs, mais avec l'entraîneur Jean-Claude Bator qui a remplacé Daniel Herrero, ce que représentait Daniel à cette époque-là, André, voilà, qui reprenait la place de M. Bigourou, ouais, c'était des moments forts, quoi, parce que Voilà, c'est... En tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que les hommes passent, mais le club doit rester et il restera toujours.
Surtout que ça a été le dernier titre jusqu'en 2014, ouais, jusqu'en 2013. Le titre
13, 2013, je savais, moi ouais. Je dis.
Mais voilà, du coup, c'est un titre dont on a dû te rabâcher les oreilles pendant plus de 20 ans, du coup.
Oui, mais c'est vrai, mais bon, après, je crois que c'est, ça s'est ancré, tous les titres sont ancrés, c'est indélébile pour chaque joueur qui a connu sa aventure, pour chaque supporter qui l'a connu. Voilà, je crois que toutes les épopées sont différentes, mais elles sont belles parce que c'est de la passion, c'est des moments forts. Partagé avec le peuple toulonnais, les supporters. Voilà, c'est des bagarres, c'est des, quand je dis bagarres, c'est des batailles, quoi. On donne tout, et voilà, et je crois que c'est ça. Et la communion après derrière avec le peuple, c'est extraordinaire. C'est fabuleux.
Bon, 30 ans après, maintenant, il y a prescription sur tout. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu n'as jamais racontée sur cette année-là, qui tu pourrais nous livrer aujourd'hui?
Des anecdotes, pas spécialement. C'est simplement aussi de l'enthousiasme qu'il pouvait y avoir autour de ces matchs-là, quoi. Non, j'ai pas spécialement d'anecdotes. Je crois que ce qui, moi, m'a vraiment marqué, c'est cet engouement populaire. Ce que représente le rugby club toulonnais à Toulon et dans le Var. Il y a la marine à Toulon et il y a le rugby. Ou il y a le rugby et la marine. Je sais pas dans quel sens on peut le mettre. Mais en tout cas, le peuple toulonnais s'identifie complètement à son équipe. Et c'est vrai que c'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort. Après des anecdotes, il peut y en avoir une. Moi, je me rappelle un match avant le match de Béziers à Marseille. Et on est à quelques heures du match et on fait le repas d'avant-match. Et à un moment donné, il y a Marco de Rogemont qui raconte une blague. Il y a Toto qui a trois frères, Pim Pam et Marc de Rogemont avec Harry Melby qui dit poum, tu vois, et tout le monde éclate de rire. Et Jean-Claude Balator qui arrive. Et hey, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on prépare un match de quoi? Bon, voilà. C'est des petites anecdotes comme ça, mais après, je me souviens de y en avoir d'autres, mais voilà. C'était, en tout cas, c'était beaucoup d'amitié avec tous ces joueurs-là. Malheureusement, je vous ai cité un nom qui, voilà, ne sera pas là pour fêter ses 30 ans et qui est beaucoup dans nos cœurs. Voilà, Eric Melville, quoi. C'est pour...
C'est pour lui tout ça aussi, quoi.
Ouais.
Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Ben, d'avoir plongé dans la boîte à souvenirs et pour ces 30 ans.
Merci.
Merci à toi.
Rugby Club Toulonnais, 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Aubin Huébert, itinéraire d'une recrue adoptée par Mayol.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'Université de Besagne.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines.
J'imagine que ça doit être du délire sous la rade.
Un podcast de la rédaction des sports de Var Matin, Fabrice Michelier, Pierrick Illic-Ruffinetti, Olivier Bouisson avec Sonia Bonin.